Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.
Amis auditeurs et amis auditrices, bonjour. Cette semaine, notre invité a beau habiter depuis quelques années à Vaquières, près de Claret, il est difficile de trouver plus enraciné à Montpellier que lui. Il y est né, y a vécu et travaillé. Il est surtout l'historien, le passionné, l'apologiste de Figueroles, son quartier natal, un des quartiers de la ville à l'identité la plus marquée. Son goût pour l'enseignement comme instituteur, son engagement dans l'éducation populaire au CMEA et son doctorat en sociologie avec une thèse sur le patrimoine se sont traduits par une dizaine de livres d'histoire comme Montpellier de A à Z, Figueroles, un quartier de Montpellier, ou Par hasard à Montpellier. Une production éclectique, puisqu'y figure un roman policier, Alerte rouge à Montpellier, et d'autres réalisations.
Alerte rouge à Figueroles.
Alerte rouge à Figueroles. Alors, comme vous le savez, là, on va d'abord parler de Montpellier en général, puis on s'attachera bien sûr à évoquer Figueroles sous ses différents aspects. Quels mots vous viennent à l'esprit pour décrire Montpellier? Comment vous traduiriez ce qu'est cette ville? Par exemple, quand des amis sont de passage, que leur dites-vous? Que leur racontez-vous de Montpellier pour essayer d'expliquer ce que c'est cette ville et ce qu'elle peut avoir de particulier?
Alors, c'est complexe, parce que la question que vous me posez, parce que ça fait référence à, disons, une description actuelle de Montpellier. Bon, si des gens viennent, s'ils veulent passer la journée à Montpellier, donc je vais commencer par leur dire de faire attention à la circulation et de prévoir des temps de déplacement, etc. Donc ça, c'est le côté un peu néfaste de la ville actuelle.
Et de sa croissance.
Maintenant, c'est vrai que après la ville, elle est charmante sur bien des aspects, notamment tous les aspects archéologiques et historiques qui sont ceux du centre et puis ceux des quartiers. Des quartiers annexes, c'est-à-dire ce qui est important de saisir, c'est les lieux de vie, les endroits où il se passe des choses, les endroits où il y a des gens charmants, forts en parole, et voilà, et les marchés, les choses comme ça.
La vie sociale ou la...
Voilà, toute la vie quotidienne, voilà. Oui, de la ville, oui, les rencontres qu'on peut y faire, etc.
Ou ce qu'on appelle un peu, de manière un peu pédante, l'urbanité, quoi, le rapport des gens à la ville.
Voilà, tout à fait.
Et il y a des lieux auxquels vous êtes particulièrement attaché, à titre personnel ou professionnel, des lieux repères ou des lieux marquants.
Bon, évidemment, vous le comprendrez, c'est le quartier Figueroles qui...
Ça, on le garde pour la
bonne
bouche.
Qui a mon cœur, on en parlera plus tard. Et c'est vrai que... Ensuite, il y a des endroits qui sont plus sympas que d'autres, mais... il faut savoir se glisser entre les endroits qui sont...
Fléchés ou qui sont...
Non, qui sont un peu plus pénibles à vivre. Je veux dire que le centre-ville ancien est recouvert de terrasses de bars, de restaurants, etc. Donc, ce n'est pas les endroits où j'aime aller. Là où j'aime aller, c'est dans les petites rues où je suis passé, que ce soit pour trouver des magasins en particulier qui sont encore là. Je parlerai de la librairie Claire et de la rue Alexandre Cabanel, par exemple, qui est un peu plus haut, la rue Terral, la rue Poitevine. Il y a un tas d'endroits comme ça qui sont charmants, qui passent dans les rues, qui passent au milieu des gens, au milieu des maisons. Et là, on aime y traîner, on aime s'y promener. Oui, tout à fait.
Mais au bout du compte, est-ce qu'il y a, je dirais, un esprit de Montpellier ou un style particulier, une manière distinctive de...
C'est ennuyeux parce que le Montpellier d'aujourd'hui parasite énormément la description qu'on peut en faire, dans le sens où tout y a changé, c'est-à-dire les gens ne sont plus les mêmes. Peu à peu, les gens qu'on connaissait disparaissent. Hein. Moi, je suis plutôt jeune et les gens qui étaient... Mes anciens, il n'y en a plus beaucoup. et puis, par contre, sont arrivés beaucoup de nouveaux habitants qui très souvent ne restent pas bien longtemps. Et donc, c'est ça qui est ennuyeux. C'est vrai que si on cherche les, comment dire, le Figaro, enfin le Figaro, le Montpellier ancien, on a du mal à le retrouver. Par exemple, je vous dirais que l'Esplanade, par exemple, c'est un lieu qui était, que j'ai bien connu, puisque j'ai été élève au lycée Joffre. J'ai en effet des parties de baby-foot au City Sport, et puis j'en ai bu des coups au bar de l'Esplanade, ce temple de l'accordéon, hein, c'était, il faut s'en rappeler. Et c'était, on y allait, on connaissait pas tout le monde, mais on rencontrait sans arrêt des gens qu'on connaissait.
Donc il y avait des relations ou une proximité spontanée, je dirais.
Ben, c'était lié au fait que voilà, on avait tous nos copains qui étaient là, il n'y avait pas trop de monde encore, hein, dans les années 70, 1970, et c'était, comment dire, c'était facile. Bon, aujourd'hui, la différence, c'est que si on va sur la Comédie, on ne connaît plus personne. On rencontre que des gens que l'on ne connaît pas, on croise beaucoup, beaucoup de monde, mais des inconnus. Alors c'est ça qui est un peu gênant. Donc ça, c'est des choses qu'il faut oublier. Je pense, pour découvrir la ville, il faut s'attacher à se laisser imprégner par son architecture ancienne, hein, je dis bien ancienne, et se laisser aller ensuite dans les quartiers plus récents, au niveau des lieux de rencontre, les endroits où on peut s'asseoir, où on peut regarder. Je sais pas, quand j'avais un petit-fils, je l'amenais dans des terrains de jeu. Et c'est curieux parce que là, on crée des liens avec les autres parents, avec les autres enfants.
Oui, de manière simple et spontanée.
Voilà, une manière simple et facile de rencontrer les gens qui vivent aujourd'hui. Mmh. Même si on ne les connaît pas, on ne les reverra peut-être plus jamais, certainement plus jamais. Mais il y a moyen de... Il y a un état d'esprit lié à la douceur de vivre, lié au climat, à la température, aux choses qui se passent d'une façon générale, qui fait que il y a un certain plaisir à circuler dans les rues.
Et un certain hédonisme, je dirais, une certaine mise en avant d'un plaisir de vivre particulier.
Particulier, c'est difficile,
en tout cas, propre,
difficile à dire.
Du Sud.
C'est-à-dire, voilà, ce qui se passe, c'est quand même c'est le climat qui est très, très différent, hein, de d'autres villes du Nord, de l'Est, de la France, etc., qui sont plus frileux, plus froids. Donc on est davantage dehors, beaucoup plus longtemps dans l'année. Et donc c'est vrai que ça ajoute une autre dimension. C'est d'ailleurs ce qui attire tant de monde pour qui souhaite venir ici, quoi, qui souhaite passer du temps, s'installer dans le midi, parce qu'il fait bon vivre. Ça c'est même... Enfin là maintenant il fait trop chaud une bonne partie des mois de l'année. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même... On est encore sur cette image pour combien de temps, je ne sais pas. Sur cette image du côté agréable, de la douceur.
Alors, vous l'avez un peu évoqué, mais quel jugement d'ensemble vous portez sur l'évolution de la ville ? Sur les aspects négatifs, hein, des rencontres moins spontanées, une circulation difficile. Malgré tout, l'évolution démographique, sociologique, économique et urbanistique de la ville a fait que la ville a beaucoup changé en 20 ou 30 ans. Et à ce jour-là, votre regard, quel est-il ? Et est-ce que vous avez fui Montpellier pour aller à Vaquer, par exemple ?
Il y a un peu de ça, oui, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que, comme je vous disais, l'âge aidant, les difficultés de circulation. Vous voyez, là, par exemple, pour venir ici, j'ai failli me faire écraser par deux vélos qui descendaient sur les rails du tram à toute allure. Et c'est ennuyeux, en fait, ça effraie un peu. Donc c'est vrai que je n'ai pas ces problèmes-là... à milieu rural, où, c'est mieux. Et, c'est vrai que ce n'est pas mon domaine de compétence, question que vous me posez. Parce que
c'est la formule de l'émission, donc.
Oui, je sais bien, là, je donne un avis qui n'est pas très, très fondé, c'est-à-dire dans le sens où j'y ai pas passé de temps à y réfléchir, j'ai pas fait de grandes recherches. Simplement, peu à peu, j'ai fui... la ville, le centre-ville. Ça fait des années que je ne suis plus allé sur la place de la Comédie. C'est parce que c'est trop compliqué. Et puis parce qu'il y a trop de monde, et puis je ne trouve pas ça très agréable. Donc c'est un avis personnel, tout à fait.
Hein, c'est celui que j'attendais.
Je pense qu'il y a un tas de gens qui apprécient, puisqu'il y a beaucoup de monde, il y a toujours beaucoup de monde à Montpellier. Donc mais je ne peux pas dire que je le fuis, parce que j'en ai... En fait, j'en ai beaucoup de souvenirs.
Oui.
Et c'est ça, ce que mes recherches m'ont montré, c'est que dans la description des quartiers du temps jadis, il y a une sorte de création qui est d'émotion artistique, si
oui.
vous voulez, sur tout ça. Parce que sur le temps passé, on gomme tout ce qui était pénible, où on fait... Bon, il y a des choses qui restent en tant que traumatisme, hein, ça, c'est les Freudiens se régaleraient, mais il y a des choses qui étaient désagréables, et tout simplement, on les gomme. Et on garde les souvenirs qui nous plaisent, c'est-à-dire les gens qu'on connaissait, qui étaient sympas, avec qui on discutait, toutes les aventures qu'on a connues quand on était jeune, à tous les sens du terme, hein, qu'elles soient amoureuses ou qu'elles soient professionnelles. Et c'est tout ça qui reste en vrac, et on finit par en faire une belle image.
Nostalgie ?
Je ne dirais pas ça, parce que je ne veux pas dire que c'était mieux avant, que, etc. C'est pas vrai, c'était pas mieux. Vous voyez, ne serait-ce que la médecine, par exemple, pour prendre un seul exemple, elle était tâtonnante jadis, et aujourd'hui elle est très très performante, même si les hôpitaux ne sont pas plus à la hauteur de ce qu'on attend d'eux, mais il n'empêche qu'ils sont équipés de matériel et de les techniques qui sont pratiquées sont au top.
Et donc c'est pas un regard passéiste.
Non, c'est pas passéiste. C'est plus
un amour du passé, voilà. Mais sans être un regard passéiste.
Voilà. Artistique et émotif, voilà. Si vous voulez. C'était.
Voilà. Et donc toute la le sensible, je dirais, que vous avez vécu, ressenti et qui se perpétue en quelque sorte. C'est presque impalpable, je dirais. Ça peut s'écrire, se décrire, voire s'analyser.
Voilà, voilà.
Mais ça enlève du sentiment ou du...
Voilà, c'est vrai qu'on entre dans la poésie, hein, dans le Rimbaud, le Verlaine. Voilà, on serait tenté de décrire des scènes qui soient extrêmement belles, qui prêtent à la réflexion, qui prêtent au rêve, qui soient... Voilà, c'est ça qui est l'apport secondaire de tout un travail de recherche à la fois d'historien et de sociologue. En même temps, à partir du moment où on lui donne une couleur universitaire, on se doit de gommer tout ce qui est trop imaginé. Même si on garde cette teinte, si on ne peut... je sais que j'avais eu des débats avec des gens qui estimaient qu'on pouvait écrire l'histoire d'un quartier, d'une ville... même si on n'y était pas né, si on n'était quasiment jamais venu, mais en se basant uniquement sur des documents. Alors oui, c'est vrai qu'on peut se baser uniquement sur des documents, mais je pense très fortement que quand on a un vécu propre à un lieu, on est vraiment beaucoup plus apte à faire ce travail, parce qu'on le fait d'une manière extrêmement profonde.
Oui, enraciné.
Oui, oui, oui. Ça c'est capital.
Ouais, du coup, c'est ça. Alors, est-ce que c'est le ce que nous décrivez, le croisement entre une connaissance intime et peut-être un imaginaire et une observation plus rationnelle, plus méthodique ? Est-ce qu'il y a un travail d'historien ? Mais en réfléchissant à notre rencontre, je me disais, bon, c'est un promeneur attentif qui regarde, bon, qui lève le nez sur ce qui se passe, qui rencontre des gens, et où c'est peut-être d'une taille une méthode sociologique, si elle est méthodique, se croise ça, je dirais. L'homme, je dirais, à Keck, et le chercheur.
Voilà, si vous voulez, ce qui m'a séduit dans les théories sociologiques que j'ai appliquées dans mon travail, c'est ce qu'on appelle la sociologie de l'imaginaire. Et c'est quelque chose ça rejoint un petit peu tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que ça permet de laisser venir des émotions à partir de choses que l'on vit, que l'on constate. C'est dans cette mesure-là que je vous disais que ce qui est très important, c'est le passé qu'on a pu avoir, le vécu. Et puis ce qu'on exprime. J'avais trouvé sympathique l'image des tables tournantes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait pas pourquoi ni comment, la table se met à tourner.
Ah, oui, c'est ça. Il y a quelque chose, comment dire, qui n'est pas complètement analysé, mais qui a des phénomènes qui ne sont pas l'objet, je dirais, de recherches approfondies, mais qui gardent une part de mystère.
Qui se concrétisent d'un coup et qui viennent de loin. Vous voyez, j'écris aussi... Et là, je suis en train de terminer un roman dans lequel je me suis rendu compte que je vais écrire un chapitre, voilà, ça m'est arrivé là, il n'y a pas longtemps, un chapitre, je ne sais pas ce qui va se passer. Et en fait, je commence par décrire un lieu, un personnage. Et à ce personnage, il lui arrive des trucs que je n'avais pas calculé avant.
Bien sûr.
Mais ça se passe là comme ça, et j'écris ce qui se passe. Et j'ai l'impression que que je suis saisi par un courant qui est presque surnaturel.
Oui, beaucoup d'écrivains disent ça. Et du coup, vous pouvez embarquer le lecteur dans cette trajectoire.
Mais ça demande pour l'auteur d'avoir campé un décor, d'avoir des personnages avec des caractères très, très marqués, d'avoir une intrigue qui s'est dessinée. Et en fonction de paramètres comme cela, les choses ne peuvent pas se passer autrement.
Oui.
Il suffit qu'on lance la balle pour qu'immédiatement elle ricoche.
C'est ça. Et l'intrigue fait son chemin, du coup.
Voilà, et donc l'auteur n'a quasiment rien à faire, ça lui échappe. Ça lui échappe, et d'ailleurs on a vécu ça avec... on en parlera tout à l'heure avec notre dernier bouquin, je vous expliquerai.
Alors, passons à Figaro, parce que c'est quand même l'objet principal de cette rencontre. Alors, est-ce que... On regardera un peu les différents aspects, l'évolution, les idées reçues, mais... Si vous pouviez définir en quelques mots ce que sont les caractéristiques, ce qui est fait de Figueroles un quartier singulier, qu'est-ce que vous diriez, quoi, je dirais, comme élément majeur de l'identité là, de Figueroles?
Alors, c'est compliqué parce que, vous voyez, élément majeur de l'identité. Quand j'ai commencé ce travail, et ce qui m'a particulièrement motivé, c'est que en tant que natif du quartier, vu que j'y avais toute ma famille, que j'avais beaucoup d'amis...
Qu'est-ce qu'ils faisaient, vos parents ?
Mon père était élagueur à l'EDF.
Oui.
Et ma mère était... mère de famille, elle faisait des tas de trucs, elle a fait des ménages, elle a eu taillé la vigne, etc. Mais bon, c'était pas un métier à temps plein, tandis que lui, c'était vraiment son métier.
Donc, cet enracinement, encore une fois... à Figueroles, et donc avec le recul, je vous invite, pour ceux de nos auditeurs qui ne connaissent pas ou peu Figueroles, ou qui en ont une image, je dirais, un peu biaisée, on y viendra, que diriez-vous là en gros, voilà, qu'est-ce qui distingue Figueroles d'autres quartiers anciens, hein, bon.
Voilà, alors c'est difficile de dire de comparer avec d'autres quartiers, parce que j'ai pas la compétence requise pour comparer. Mais par contre, ce que j'ai commencé à vous dire, et que je continue, c'est le fait que j'étais un petit peu frustré du fait d'être né dans ce quartier et de pas le connaître.
Ah.
C'est-à-dire pas vraiment connaître son histoire. Alors je vous citerai par exemple l'aventure de la Commune libre de Figueroles. Elle s'est arrêtée au début des années 60, 1960.
Alors, donc, ça mérite d'expliquer. J'avais prévu ça, bien sûr, comme question. Qu'est-ce que c'était la Commune libre ? Comment s'est-elle perpétuée jusqu'à il y a peu ? Ou en tout cas, bon, il y a quelques décennies. Qu'est-ce que c'était comme forme d'organisation ou de vie civique ou de vie de quartier qui a pris cette forme particulière ?
Oui, mais c'était... La Commune libre, c'est un mouvement qui s'est créé après-guerre et qui est un peu semblable à celui de la Commune libre de Montmartre. C'est-à-dire que c'était la Commune libre de Montmartre, c'était après la Première Guerre mondiale, et notamment au moment où on a décidé de construire le Sacré-Cœur. Et c'est là que les gens se sont rebellés contre cette idée qui mettait à mal une église ancienne, etc.
Et puis les séquelles de la Commune de Paris aussi,
j'imagine. Oui, c'est ça. Donc c'était dans l'esprit aussi de la Commune de Paris. Mais bon, là, c'était la Commune libre de Montmartre. Et donc, ils ont décidé de créer, sous le régime de l'humour et de la dérision, en même temps, un côté très caustique vis-à-vis des dictatures de l'État, de la religion, etc. Donc, ils ont été... Voilà. Et c'est ce qui s'est passé, on pourrait en parler longuement, mais ce n'est pas le sujet. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, à Figueroles, est arrivé après, cette fois, la Seconde Guerre mondiale, un mouvement qui est né essentiellement parmi les militants communistes. Donc c'est des gens qui avaient œuvré dans la résistance, qui s'étaient engagés, qui avaient pris des risques, certains avaient été torturés, déportés, etc. Et ils avaient créé tout un réseau dans lequel ils protégeaient les Juifs qui se cachaient. Ils fomentaient des attentats, ils libéraient des gens qui avaient été capturés par la Gestapo, etc. Donc ils ont eu un engagement très fort pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à l'issue de cette Seconde Guerre mondiale, il est resté cette dynamique qui était... avec des tas de gens qui étaient prêts à faire des trucs, mais là, il n'y avait plus rien à faire. Donc,
mais il y avait quand même le désir de
solidarité, le désir de faire. Et ils se sont trouvés face à un quartier dans lequel il y avait une grande misère. Donc leur idée, ça a été, enfin, tout ça conduit par un personnage très fort, M. Louis Roucoul, qui a été le premier maire de la commune libre de Figueroles, qui était un ancien policier qui avait démissionné parce qu'il n'était pas d'accord avec... Voilà. C'était déjà quelqu'un de très contestataire et de très, très érudit. Et il a donc lancé ce mouvement qui a eu pour effet immédiat de créer des fêtes. Alors là, on était vraiment après les restrictions, après la guerre, après les tortures, etc. Donc on créait des bringues. Là, on mettait des tonneaux en perse sur le Faubourg Figueroles, on faisait venir des orchestres, on faisait du cinéma en plein air, on allait à Bayonne, sur la route de la Vérune, c'était vraiment Figueroles plage à l'époque. Et voilà, ils ont fait énormément de choses comme ça. Et l'idée, c'était de récupérer de l'argent, qui était, bon, les gens payaient pour avoir du vin, etc., donc un peu plus cher que ceux qui achetaient le vin. Ils organisaient des collectes aussi, ils organisaient des jeux, etc. Et tout cet argent qui était récolté servait à acheter du charbon, par exemple, pour les gens qui ne pouvaient pas se chauffer, jusqu'à 1962, enfin même avant, où ils ont envoyé des colis aux soldats de Figueroles qui avaient été envoyés en Algérie.
D'accord, oui. Donc des solidarités actives, mais comme on dit, bon, en proximité, quoi, dans le voisinage.
Voilà. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir mettre la main sur les recueils des assemblées générales, enfin des réunions de la commune libre de Figueroles, qui étaient entièrement manuscrits, et j'ai eu la chance de pouvoir les publier. Donc, c'est des documents précieux, hein, enfin, qui sont maintenant disponibles en librairie, je pense à la bibliothèque municipale aussi. On peut consulter ces textes qui se prêtent à des études profondes. C'est vraiment long sur les années de... Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont consignées. Et puis c'est très, très touchant de voir le soin qui était apporté à rédiger ces actes qui, avec une rigueur qui était vraiment liée au militantisme communiste, qui était
l'école
très structurée.
Et le parti comme point de repère.
Voilà. Et alors, c'était ça que je n'ai pas connu, parce que moi, en 62, j'avais 8 ans, et quand ils ont arrêté. Et donc, j'en ai eu que des bribes. Et donc, je n'avais pas gardé... Et puis après, je me suis dit, mais punaise, mais tu sais rien de la commune libre de Figueroles. Et donc là, je me suis mis vraiment à étudier, à recueillir des témoignages, à voir des gens, etc. Et heureusement, avant qu'ils soient tous morts. Hein,
il en reste quelque chose? Est-ce qu'un fil... certes ténu, qui s'est malgré tout perpétué depuis, donc pour le coup...
Non, tout a changé.
60
tout a changé.
Ans, 60 non, ans non. C'est beaucoup, là, oui.
Oui, tout a changé, c'est plus comme ça. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est les éléments de l'histoire. Alors, c'est vrai que les travaux que j'ai menés ont intéressé vraiment profondément un certain nombre de personnes qui ont réfléchi dessus. J'avais organisé des conférences un temps où les gens venaient écouter, me poser des questions, etc. Donc...
Et donc, comment vous réagissez ou que dites-vous quand sont émises des idées reçues, caricaturales, simplistes, négatives sur Figueroles, là, contre lesquelles de ces idées reçues faut-il se battre?
Non, je ne sais pas s'il faut se battre contre des idées. Je ne sais même pas si ce sont des idées reçues. Vous savez, aujourd'hui...
Quartier malfamé, quartier des gitans, quartier de la drogue. Enfin, vous connaissez tout ça.
Oui, mais la drogue, on la voit tous les jours. Il y en a partout. C'est la nouvelle délinquance d'aujourd'hui. Enfin, est-ce que c'est vraiment de la délinquance? Alors, vous voyez, par exemple, j'ai vu des réunions dans lesquelles il y avait des gens qui se plaignaient aux services municipaux, des dealers qui étaient à l'angle de la rue. Tout aurait été bien si ces mêmes personnes qui se plaignaient n'achetaient pas régulièrement des barrettes de cannabis aux gens qui les vendaient au coin de rue. Alors donc, il y a une connivence des liens, d'un peu de malhonnêteté réciproque. Et donc, tout ça demande
Ou de moyens de vivre ou de survivre.
Oui, enfin, c'est ça. Le mot malhonnêteté, je vous le mets entre guillemets, parce qu'il prête à développement. Donc, si vous voulez, des idées reçues, ce qu'il y a, c'est que, comment dire, il y a des gens qui ne sont pas de Figueroles, qui n'ont jamais vécu, qui ne connaissent pas, et puis qui jettent l'opprobre sur...
Pour
un jugement tranché, ce n'est pas forcément juste, même si ce n'est pas facile, même si... Mais maintenant, les problèmes des gens qui vivent sont... À tout ça s'ajoute l'impossibilité de circuler, de stationner, qui rend les choses très lourdes et les gens agressifs. Enfin voilà, il y a des tas d'imperfections qui sont...
Est-ce que vous pensez que Figueroles est menacé par ce qu'on appelle la gentrification, c'est-à-dire l'arrivée de personnes qui s'installent, plus aisées, et qui, selon certains, pourraient dénaturer le quartier, lui faire perdre...
Et je ne sais pas si, si ça peut être une menace, ça. Je ne sais pas, c'est difficile
à dire. C'est un phénomène qui est là.
Ce sont des gens qui, comme les autres, ont le droit d'exister. Si à un moment donné, le marché leur permet d'acquérir des biens et puis d'y habiter, il n'y a rien de mal à ça. C'est quelque chose de tout à fait normal.
Alors, pour finir, on va évoquer votre dernière parution. C'est un conte que vous avez réalisé avec le dessinateur Mons. Ça s'appelle Les Trois Bises. Alors,
oui.
Pourquoi Les Trois Bises?
C'est un petit délire. C'est à savoir qu'ici, on fait souvent trois bises. En fait, c'est la région. On veut que...
Ah oui, si on va à Toulouse, c'est déjà deux.
Voilà, donc c'est vraiment local. Alors, c'était à partir de cet événement, essayer de savoir comment et pourquoi on s'est mis à faire trois bises par ici. Alors bon, il y a une histoire assez fantastique, hein, c'est quand même un petit conte pour enfants, et qui permet de comprendre comment et pourquoi on fait tous trois bises, et puis surtout qu'il ne faut pas arrêter d'en faire trois, parce que sinon, ça ira très très mal pour l'humanité.
Alors, il y a également un CD qui est produit en même temps, qui est en occitan, si j'ai bien compris, avec Susanna Selenokova au chant et Baptiste Arquex, votre fils, j'imagine,
oui. Pour
la musique et les percussions. Mais dernière question, je souhaitais que vous nous parliez du livre qui s'apprête à être diffusé, là, et qui est lui aussi dans le champ, je dirais, de la fiction. Là, si vous allez me dire un mot, en exclusivité pour Divergence FM.
Oui, alors donc c'est une parution qui est prévue normalement le 9 décembre à Claré, donc vous êtes tous invités à 18h30 à venir assister à cet événement. S'il n'y a pas de problème avec ça, enfin de problème de parution, mais enfin, en principe c'est sur des rails, donc ça devrait pouvoir faire. Alors la particularité de cet ouvrage, c'est que ça rejoint un petit peu dans la façon de le faire l'idée que je vous expliquais tout à l'heure, vous savez, cette sorte d'immanence du conte par rapport à des choses qui se passent. Et donc là ça revient au moment du Covid, le plus dur dans lequel on était confiné et où les directives d'État étaient dans l'absurdité la plus totale, hein, qui se mordaient la queue, on faisait ci, on faisait pas ça. Donc c'est à ce moment-là que Moss a eu l'idée de faire une série de dessins qui sont de la fiction la plus totale. Hein. C'est pas, on pleurniche pas sur le confinement, mais le masque existe et il a un rôle dans le déroulement de l'histoire. Donc il a fait deux épisodes, si vous voulez, de dessins comme ça, qui lui sont venus, il avait envie de les faire, et puis il me les a donnés. Et il me les a donnés en me disant, ben voilà...
Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
si tu veux écrire quelque chose. Et alors, comme je connais bien Moss, je le connais depuis très longtemps, et que y a une certaine, complicité qui se crée, ça ne m'a pas posé du tout de problème de rentrer dans ces images.
Oui, parce que c'est un univers qui ne vous était pas spontanément familier.
C'est un univers que je connais bien, ses dessins, je connais son travail. Et donc, je suis immédiatement rentré dans l'histoire. Et donc, j'ai écrit un scénario qui va avec, un scénario assez original. Et qui...
Le titre le dit, le troisième heure du cyclope, alors.
Voilà. Voilà.
Pas la deuxième heure.
C'est un grand moment, je pense, une belle rencontre qu'on a faite intellectuellement tous les deux, et qui est passionnante, je crois, pour les lecteurs et tous ceux qui aiment son graphisme et la façon dont j'ai essayé de l'interpréter, de le guider sans contrainte.
D'accord, ben voilà une suggestion pour nos auditeurs et auditrices. On arrive à la fin de cet entretien. Alors, je remercie à la technique Naomi Charmettan, une des deux volontaires du service civique que Divergence FM accueille. Donc, merci, mesdames, messieurs, et à la semaine prochaine. Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
C'était Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès sur Divergence FM.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.